La Voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, l'édition du lundi 29 décembre 2014, en direct de Washington. Camille Gros-Didier et Georges Léonard Sagnot avec vous. Bonjour Georges.
Bonjour Camille et bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, ce lundi 29 décembre est décrété journée sans radio et sans télévision sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC pour protester contre le meurtre d'un journaliste.
L'enterrement du confrère Chamois Michel Lubuto de la RTNC Goma est prévu le lundi 29 décembre 2014. Tous les journalistes du Nord Kivu sont ainsi invités.
Les détails dans un instant avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. Reprise des recherches lancées pour retrouver l'avion de la compagnie malaisienne Air Asia, disparu au-dessus de la mer de Java avec 162 personnes à bord. Le président Barack Obama a salué dimanche la fin de la mission de combat de l'OTAN en Afghanistan.
La mission de combat des forces alliées a pris fin en Afghanistan ce 28 décembre. Mais l'insurrection des talibans reste une menace pour le gouvernement afghan et la stabilité du pays.
On suivra les explications de Chérubin Dorsil et surtout, ne manquez pas notre rubrique La Minute de l'économie ainsi que les sports. Et en fin d'émission, la musique de Roger Muntu. Mais tout d'abord, le journal. En Indonésie, reprise à l'aube des recherches lancées pour retrouver l'avion de la compagnie malaisienne Air Asia, disparu au-dessus de la mer de Java avec 162 personnes à bord. Un haut responsable a estimé que l'appareil est probablement au fond de la mer. L'Airbus était à mi-chemin entre la ville de Surabaya et Singapour, sa destination finale, lorsqu'il a disparu dimanche. Lors de son dernier contact radio, le capitaine avait demandé à changer sa route afin d'éviter une zone orageuse, mais s'est vu refuser la permission de le faire, un autre avion se trouvant dans le secteur. Le contact a été rompu sans que la tour de contrôle reçoive le moindre appel de détresse. Les États-Unis, tout comme l'Australie et Singapour, ont offert de participer aux recherches.
155 rebelles hutus rwandais se sont rendus aux autorités dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo, à quelques jours de l'expiration d'un ultimatum de la communauté internationale. Chérubin Dorsil nous résume les détails fournis par l'AFP.
La communauté internationale, dont les États de la région, avait donné au FDLR, y compris à leur chef, jusqu'au 2 janvier pour se rendre, sans quoi ils s'exposeraient à des attaques de l'armée congolaise et des casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. Le 30 mai, 97 membres des FDLR s'étaient rendus dans le Nord Kivu, donnant le coup d'envoi d'un processus de démobilisation de ce groupe armé. Le 9 juin, 83 autres combattants s'étaient rendus dans le sud Kivu. Mais depuis, le processus était au point mort. Hier, 83 combattants se sont rendus avec 38 femmes et enfants dans le territoire de Walikale, selon le vice-gouverneur du Nord Kivu. 17 autres étaient en route avec leurs dépendants, a-t-il ajouté. 72 rebelles et 168 femmes et enfants se sont par ailleurs rendus à Burini, une localité du territoire de Mwenga, située à environ 80 km de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Plus tard, les ex-rebelles des deux Kivu doivent être transférés vers Kisangani, capitale de la province orientale dans le nord-est, où sont cantonnés d'autres membres des FDLR ayant déposé les armes.
Pour la première fois, les forces libyennes ont mené dimanche des frappes sur des positions islamistes dans la ville de Misrata, d'où sont originaires les miliciens qui sont emparés de la capitale, Tripoli, selon des responsables. Ces raids aériens contre la troisième ville du pays, à quelques 200 km à l'est de Tripoli, sont intervenus quelques heures après des frappes lancées par les milices islamistes contre le terminal pétrolier d'Al-Sedra. La mission de l'ONU en Libye a condamné les frappes contre Misrata, faisant valoir que la poursuite du cycle de violence pourrait plonger le pays dans le chaos et la guerre civile.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a appelé les pays voisins de la Libye et l'ONU à déployer les efforts en vue de trouver une solution dans ce pays ravagé par des luttes internes. Hier, pour la première fois, les islamistes ont été bombardés à Misrata, dans l'est libyen. Henri Francisque fait le point.
Ces raids aériens contre la troisième ville du pays, à 200 km à l'est de Tripoli, sont les premiers depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et le début des luttes de pouvoir qui ont plongé la Libye dans le chaos. En jeu, le contrôle de l'un des terminaux pétroliers les plus importants du pays. Ces attaques sont intervenues quelques heures après des frappes lancées par les milices islamistes regroupées au sein de la coalition Fajr-Libya contre le terminal d'Al-Sedra dans l'Est, a indiqué le porte-parole du commandement des forces armées, le colonel Ahmed Mismari, cité par l'AFP. On n'a signalé aucune victime. Sept des réservoirs d'Al-Sedra étaient en feu en raison des combats, mais les pompiers avaient réussi à éteindre le feu dimanche soir dans quatre d'entre eux, a indiqué un responsable. Misrata est le bastion des miliciens qui se sont emparés de la capitale Tripoli, selon des responsables. Livrée aux milices, la Libye est dirigée par deux parlements et deux gouvernements, l'un proche des islamistes et l'autre reconnu par la communauté internationale. Face à cette situation, le président tchadien Idriss Déby Itno a appelé dimanche les pays voisins et l'ONU à déployer des efforts en vue de trouver une solution en Libye. M. Déby recommande l'appui de l'Union africaine et des Nations unies aux efforts des pays voisins de la Libye pour un règlement politique de la crise, indique l'agence de presse algérienne. Il aurait lancé cet appel à l'issue d'un entretien avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Le Tchad fait partie des cinq États du Sahel qui ont appelé à une intervention internationale pour neutraliser les groupes armés en Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Barack Obama a salué dimanche la fin de la mission de combat de l'OTAN en Afghanistan. À présent et grâce à l'extraordinaire sacrifice de nos hommes et femmes en uniforme, notre mission de combat se termine et la plus longue guerre dans l'histoire des États-Unis s'achève de manière responsable, a déclaré le président américain dans un communiqué. Si l'OTAN et les États-Unis ont mis fin officiellement à leurs opérations de combat, ils laissent sur place un important effectif militaire pour accompagner l'armée afghane, alors que l'insurrection des talibans se poursuit. Chérubin Dorsil.
La mission de combat des forces alliées a pris fin en Afghanistan ce 28 décembre, mais l'insurrection des talibans reste une menace pour le gouvernement afghan et la stabilité du pays. Aussi, l'Alliance Atlantique et les États-Unis vont-ils y maintenir un effectif de 13 500 soldats, 11 000 d'entre eux américains, pour aider à former et conseiller les forces gouvernementales afghanes qui prendront le 1er janvier la relève des opérations de combat et de sécurité. Le commandant de la Force internationale d'assistance à la sécurité, le général américain John Campbell, a déclaré que Washington et l'OTAN n'abandonneront pas Kaboul. Nous allons continuer à investir dans l'avenir de l'Afghanistan. Notre engagement envers l'Afghanistan perdure, a dit le général Campbell lors de la cérémonie de dimanche. Le président américain Barack Obama reconnaît que l'Afghanistan reste un endroit dangereux, mais il a déclaré que la plus longue guerre de l'histoire américaine arrive à une conclusion responsable. Au fait de l'opération d'assistance militaire, il y avait environ 140 000 soldats de 50 pays présents en Afghanistan. Le bilan a été lourd pour l'OTAN et les États-Unis. Près de 3 500 soldats étrangers ont été tués, dont plus de 2 200 Américains, pendant 13 ans de combat. Des milliers d'Afghans ont également été tués, dont environ 5 000 rien qu'en 2014.
Le bilan de l'incendie du ferry italien Normand Atlantique qui dérive dans l'Adriatique se chiffre à au moins un mort. Les efforts se sont poursuivis pendant la nuit de dimanche à lundi pour évacuer des centaines de passagers. Près de 200 des quelques 500 personnes à bord sont déjà saines et sauves, selon les autorités, Camille.
Les hélicoptères ont transféré progressivement les passagers à bord d'un navire voisin car la mer était houleuse. Le mauvais temps a empêché les opérations de secours directement par bateau.
Le ferry, parti de Patras dans l'ouest de la Grèce, devait se rendre dans le port italien d'Ancone. Au nord-ouest de Corfou, il a lancé un signal de détresse après qu'un incendie se soit déclaré dans le garage inférieur.
Plus de 160 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en Malaisie suite aux graves intempéries qui ont provoqué des inondations dans le nord-est du pays. Le premier ministre Najib Razak, qui a écourté des vacances à Hawaï, s'est rendu dans certaines des zones sinistrées. Il a annoncé une aide aux victimes des intempéries.
Le président sortant de la Croatie, le social-démocrate Ivo Josipovic et la candidate du champ conservateur, l'ex-ministre des Affaires étrangères Kolinda Grabar-Kitarovic, s'affronteront au deuxième tour de l'élection présidentielle le 11 janvier. Aucun des candidats n'a remporté plus de 50% des suffrages lors du premier tour dimanche.
Et puis le ministre sud-coréen en charge de l'unification, Ryo Kil-jae, a déclaré lundi que la Corée du Sud veut des discussions en janvier avec son voisin du Nord pour parler de programmes d'échange, de projets conjoints et des lois nécessaires pour unifier les deux Corées. Et voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. La minute économique, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, ce matin avec Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Bonjour Camille.
Alors l'Algérie est alarmée par la chute des prix de l'or noir.
Avec raison Camille, puisque le pays tire 95% de ses recettes extérieures de la vente de pétrole et de gaz. Le ministre algérien de l'énergie a demandé à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, dont son pays est membre, de réduire sa production pour enrayer la chute des cours dans des propos cités dimanche par l'agence APS. Il faut souligner que l'Arabie Saoudite, chef de file du cartel et d'autres gros producteurs, avaient prévenu la semaine dernière que l'OPEP ne réduirait pas sa production, même si les prix du brut tomberaient à 20 dollars le baril. Ils sont maintenant à environ 56 dollars sur le marché new-yorkais, après la publication du budget saoudien pour 2015 montrant que le royaume table sur la remontée des prix du pétrole.
Un autre pays du Maghreb, la Tunisie, attend un demi-milliard de dollars de la Banque mondiale en 2015.
En effet, faudrait-il rappeler que la Tunisie a bénéficié pour 2014 d'un appui financier de 204 millions d'euros. Selon la délégation de l'Union européenne à Tunis, après avoir accordé 135 millions d'euros de dons en 2013, l'UE a accentué son soutien en allouant 169 millions d'euros au programme d'action 2014. Elle y a ajouté 35 millions d'euros. Les investissements étrangers ont baissé de plus de 8% durant l'année qui s'achève, donc Tunis espère redorer son blason, surtout à la faveur d'une transition démocratique réussie après les incertitudes politiques de l'automne.
Et dans la même région, les perspectives du Maroc semblent bonnes pour 2015.
Camille, c'est du moins ce que pense la revue Jeune Afrique. Alors que le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux poids lourds économiques du continent africain, sont en proie à des difficultés, le Maroc envisage l'année 2015 de bon œil, écrit l'hebdomadaire dans sa dernière livraison. Dans un article intitulé « Maroc, la reprise, c'est bientôt », Jeune Afrique relève que tous les indicateurs montrent que 2015 sera meilleur que l'année précédente, à commencer par la pluie, véritable baromètre de bonne tenue économique, ainsi que par la reprise des activités commerciales et industrielles.
Parlant du Maroc, on applaudit les résultats de l'amnistie fiscale qui dépasserait les prévisions initiales.
Oui, cette mesure mise en œuvre l'an dernier a rapporté plus de 1 milliard d'euros, selon le gouvernement marocain, soit plus du double des prévisions initiales. On se le rappelle, le gouvernement marocain avait annoncé, dans le cadre de la loi de finances 2014, une mesure d'amnistie fiscale en faveur des résidents marocains coupables d'évasion en échange d'une contribution. La mesure d'amnistie prend fin le 31 décembre, donc dans deux jours, et ne sera pas renouvelée en 2015, a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Bouseid. Donc, les contrevenants seront passibles de poursuites judiciaires et même d'emprisonnement.
Voilà pour la Minute Éco de ce lundi. Merci, Chérubin Dorsil. On enchaîne avec les sports en compagnie d'Élisée Sonia. Bonjour.
Oui, bonjour.
On commence avec le démarrage du championnat de football de la première division du Bénin, saison 2014-2015. Le lancement officiel a lieu à Parakou.
Et c'est le match buff de Parakou, champion en titre, et Ebeke FC de Bébéréké, champion de la deuxième division, qui a donné le coup d'envoi de ce championnat. Précisons que c'est le stade municipal de Parakou inauguré la veille par le chef de l'État qui a servi de cadre pour cette explication explosive entre deux équipes de la partie septentrionale du Bénin. Et à l'arrivée, ces deux équipes se sont séparées, dos à dos. Score final donc, un but partout. Un premier match de cette première journée qui n'a connu ni vainqueur ni vaincu. À noter que les autres rencontres de cette première journée auront lieu le 10 janvier prochain.
Cannes 2015, eh bien le Mali affrontera la Tunisie en match de préparation.
Avant de débuter sa Coupe d'Afrique des Nations, le Mali disputera trois matchs amicaux. Le 9 janvier, les Aigles affronteront l'Afrique du Sud. Le 12, le Gabon. Enfin, le lendemain, ils rencontreront la Tunisie à Libreville, 4 jours après.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour Le Monde aujourd'hui. On enchaîne avec les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, eh bien, la journée de ce lundi 29 décembre est décrétée journée sans radio et sans télévision sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. C'est la corporation de l'Union de la presse du Congo, section du Nord Kivu, qui a pris cette décision suite à l'assassinat vendredi dernier du journaliste Robert Chamwami Chalou Bouto de la radio-télévision nationale de Goma. Il a été tué alors qu'il revenait de son travail. D'autres précisions avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa.
L'enterrement du confrère Chamwami Chalou Bouto de la RTNC Goma est prévu le lundi 29 décembre 2014. Tous les journalistes du Nord Kivu sont ainsi invités à s'habiller en noir et à fermer leur radio et leur télévision toute la journée. Luke Kabinmiya est le président de l'UNPC Nord Kivu.
La décision que la corporation a prise avec évidemment l'encouragement de tous ses membres, c'est de bien enterrer, de bien inhumer notre confrère, qu'il soit inhumé dans la dignité. Ça, c'est la première décision et nous avons demandé que cela se fasse le lundi dans la matinée, le lundi 29 décembre. Et la deuxième chose, c'est que ce même lundi, à l'occasion de son enterrement, nous avons décrété, avec tous les confrères, une journée sans signal radio et sans signal télévision, parce que chez nous, en Nord Kivu, il n'y a pas de journaux quotidiens, sinon ça serait fait de la même chose.
Dans quelles circonstances le confrère Robert Chamwami Chalou Bouto a-t-il été assassiné? Prouver Wundi de Jed, journaliste en danger, revient sur les faits.
Il venait de quitter la RTNC aux environs de 18h quand il venait de terminer un reportage sur la mort de feu DG Zigama de l'ISP. Et il a quitté, il est arrivé dans le quartier, l'endroit habituel où il a l'habitude, avant d'arriver chez lui, de dialoguer avec certains amis. Ils ont vu, avec les amis qui étaient assis avec lui, surgir deux personnes, entrer dans l'alimentation. Ensuite, les deux personnes ont envahi la table sur laquelle il était assis. Et ils ont finalement un s'est cagoulé. Il a tiré à bout portant sur lui en dessous de la poitrine et il est mort sur place.
Le président de l'UNPC Nord Kivu exige cette fois-ci des enquêtes crédibles.
Nous voulons cette fois-ci que les autorités nous présentent ces présumés assassins de manière que, une fois présentés, qu'ils soient châtié d'une manière exemplaire conformément à la loi.
Rappelons qu'il y a plus de 3 ans, le journaliste et photographe indépendant Patrick Kikuku avait été assassiné sans aucune suite. Il y a quelques semaines seulement, le caméraman Philemon Guira a été fusillé, sa jambe a été amputée, mais aucune enquête n'a été amorcée. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Oui, Philemon Gira, journaliste et caméraman de la radio-télévision nationale congolaise, avait lui aussi été victime le 25 octobre d'une attaque par balle à Goma. Et à cette occasion, l'ONG Reporters sans frontières s'était jointe à son organisation partenaire Journalistes en danger pour exhorter la justice congolaise à mener une enquête approfondie afin que cesse l'impunité des crimes contre les journalistes en République démocratique du Congo. Délégation algérienne composée de députés, maires et membres des différentes communautés du sud algérien était à Bamako. Ils ont été envoyés par le président algérien dans le cadre de la présentation de condoléances à la famille Intala à Kidal. La délégation a voulu passer par Bamako avant de se rendre à Kidal. À leur retour à Bamako, ils ont participé à une soirée d'échange avec les responsables des communautés du nord du Mali, arabes, Touareg, Sangraï, Peul, etc. Et la rencontre a duré plus de 2 heures, a signalé notre correspondant Kassim Traoré. Il a été question de la situation au nord du Mali, de l'amitié séculaire entre le Mali et l'Algérie, depuis la guerre de libération d'Algérie jusqu'au pourparlers actuel. On écoute Kassim Traoré.
Le sud algérien correspond au nord du Mali. C'est pourquoi le président algérien a choisi les élus et les chefs de communauté de cette localité pour venir présenter les condoléances de l'Algérie à la famille de Intala Ag Atayer. La délégation algérienne a passé par Bamako avant de se rendre à Kidal. Après leur retour de Kidal, ils ont échangé avec les communautés des régions nord du Mali, Alassane Ag Mohamed.
Cette soirée, pour moi, est un rappel de la qualité des vieilles relations séculaires entre le Mali et l'Algérie. En réalité, ça va au-delà des relations entre nous, Touareg, et en réalité, c'est pratiquement les mêmes communauté qui se prolonge jusqu'en Algérie.
C'est un compagnon de l'actuel président algérien qui est le chef de cette délégation. Il est actuellement député de Tamanrasset et était au Mali quand il n'avait que 15 ans au moment de la guerre de libération de l'Algérie. Honorable Gama Mahmoud.
Il dit que les relations entre l'Algérie et le Mali sont historiques. C'est des relations des ancêtres, c'est des relations de la révolution de libération. Il n'oublie pas et n'oubliera jamais les efforts que le peuple malien a fait pour aider la révolution. Que eux, ils sont venus en réalité dans un but de condoléances, mais heureusement, ça les a permis de connaître beaucoup de choses. Ils ont présenté leurs sincères condoléances aux défunts et porté le message du président de la République, Abdelaziz Bouzoulé.
Le député de Kidal s'est réjoui de la tenue de cette rencontre, car pour lui, seule l'Algérie peut être un bon médiateur dans la résolution de la crise malienne. Amoudène Ag Iknas.
Parce que nous savons aujourd'hui que le nord du Mali ne peut être maîtrisé qu'avec la collaboration de l'Algérie. Tant que l'Algérie ne s'implique pas, aucun autre pays ne peut maîtriser nos problèmes. Parce que l'Algérie connaît nos problèmes, l'Algérie nous connaît un à un. Tous ces responsables-là, ils sont connus par l'Algérie un à un.
Il faut qu'on tire profit de cette rencontre en la pérennisant. C'est ce qu'a laissé entendre Azaz Loudagdag, coordinateur de la communauté IMGAD.
Je demande à tout un chacun ici de mettre vraiment, de prendre comme une chose très importante l'arrivée de nos frères et de prendre comme une chose très importante le fait d'avoir des relations avec eux qui puissent vraiment nous faire avancer. Parce que si on se connaissait et si on parlait et si on échangeait, il y a beaucoup de choses qui pourraient être facilitées.
Au nom des Arabes, le député de Bourem a demandé à la délégation algérienne de tout faire pour que la paix revienne dans le nord du Mali. Mohamed Ouldou Matali.
Aujourd'hui, le nord du Mali, il y a une insécurité totale. On n'a même plus l'amour d'aller voir nos animaux. Ça fait 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'école. Le commerce est interrompu. Et le seul prétexte, on accuse le Mali. Alors que c'est nous les responsables au nord du Mali. C'est nous qui avons l'armée. C'est nous qui avons les postes politiques. C'est nous qui avons le gouverneur. Donc s'il y a un problème, on n'a qu'à s'asseoir et résoudre le problème. C'est parce qu'il n'y a pas de problème.
Cette rencontre a eu pour cadre le domicile du général Gamou, un officier supérieur de l'armée malienne, qui a aussi demandé aux Algériens d'aider le Mali et les populations des régions nord du Mali à sortir de cette situation d'insécurité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Micro Didier pour Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au Congo, au Brazzaville, déception des populations autochtones, communément appelées pygmées, qui attendent depuis 4 ans la mise en application d'une loi qui a été adoptée en leur faveur. Faute de texte d'application, 8 en tout, la loi sur les populations pygmées ne peut être appliquée. Ces communautés se disent profondément troublées. Elles en appellent aux autorités afin que cessent certaines maltraitances contre elles. On écoute un reportage depuis Brazzaville de Nguela Ngoussou.
C'est depuis 4 ans que les populations autochtones du Congo attendent l'application de leur loi spécifique. Une loi qui devrait changer les rapports quasiment d'esclavage entre les autres Congolais et ces autochtones, tel que le décrit ici Ngoma, un autochtone de Sibiti, dans le sud-ouest.
J'ai un champ, les Bantous nous payent par un morceau de manioc ou un verre de boisson. Ils veulent qu'on y reste toute la journée. Souvent, le travail abattu ressemble à 1 hectare, juste avec un peu de manioc et de sakasaka, appel salé. Nous sommes au courant de cette loi et nous voulons qu'elle soit vite mise en application pour mettre fin à nos souffrances. Nous vivons comme, dans l'ancien temps, un vrai esclavage.
Le ministère de la Justice et des Droits Humains, qui est chargé de finaliser les textes d'application de cette loi, vole aujourd'hui de promesse en promesse. Parfait Diokanda est le coordonnateur du Réseau national des populations autochtones du Congo.
Nous sommes surpris que jusqu'à ce jour, ces tests d'application sont restés lettres mortes. Et nous avons commencé à faire aussi des plaidoyers de fond. La preuve, le 29 juillet 2014, nous étions soutenus par l'UNIP, venus de New York et de Genève, qui ont organisé une journée de sensibilisation parlementaire pour essayer un peu de demander aux parlementaires pourquoi, lorsque le gouvernement est interpellé et dans les questions qu'on pose au gouvernement, la préoccupation des parlementaires qui ont adopté cette loi-là n'ont jamais pu poser la question. Le directeur général des droits humains a déclaré solennellement devant l'opinion nationale et internationale et ministre de la Justice, des droits humains et des libertés fondamentales, l'avait chargé de déclarer fort que ces textes doivent être signés avant le 31 décembre. Et jusqu'à là, nous avons essayé de ménager nos efforts pour suivre si c'est réellement ces textes ont subi un petit mouvement. Hélas, il n'y a pas de traces. Nous avons interpellé encore le directeur général qui a déclaré que cette fois-ci, le ministre lui a encore rechargé de redire que ces textes doivent être signés avant le premier trimestre 2015. Vous savez, depuis 2011, cette loi est restée morte.
Le Congo-Brazzaville est le tout premier pays de la sous-région à avoir pris une loi pour favoriser l'intégration de ses populations longtemps marginalisées du processus de développement. Ces populations représentent près de 10% de l'ensemble de la population congolaise, estimée à plus de 4 millions d'habitants. Mais l'attente de voir cette loi entrer effectivement en application commence à lasser certains de leurs leaders communautaires, comme Jean Ganga, président de l'Association pour le développement et la promotion des droits des populations autochtones du Congo.
Vraiment, même, on est dessus, parce que dans ce sens que ces textes soient encore aux mains du directeur de droits humains, c'est qu'il y a des choses qui sont là-dedans pour les exécuter, il faut ces textes.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Et on enchaîne avec la page musicale en compagnie de Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Camille. L'artiste malien Mohamed Diaby sera notre invité cette semaine dans RM Show demain mardi, hein, pour être plus précis. On se rappellera qu'il y a quelques années, Diaby avait posé ses valises en France où il s'était forgé un autre style de musique, hein, différent qu'il a propulsé sur les scènes musicales maliennes. On l'écoute ce matin dans Django Gallo.
Roger, Mohamed Diaby est aux États-Unis pour passer les vacances de fin d'année ou va-t-il faire une tournée ?
Les deux, Camille. Le producteur de l'artiste, Madame Doussou, nous a confié au téléphone qu'il prestera quelques concerts aux États-Unis et possiblement au Canada. Mais bien sûr qu'il profitera aussi de cette occasion pour passer ses vacances. De notre part, nous nous réjouissons seulement de l'avoir comme invité dans le RM Show de ce mardi 30 décembre 2014 entre 20h et 21h, temps universel.
C'était Mohamed Diaby dans Django Gallo. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous dis merci et vous souhaite une très bonne journée, Camille.
Et bien sûr, vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel. Avant de la Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde aujourd'hui de La Voix de l'Amérique. Vous étiez à l'écoute de VOA Afrique. Merci à Georges Léonard Sagnot et très bonne journée à tous à l'écoute de La Voix de l'Amérique.